Cependant, le saint homme ne s'attend pas pour battu, et il imposa à la marquise une réparation pour les détestables faits accomplis et pour la purification du gynécée et des yeux de Jacquette. La méthode consistait à observer une retraite de 9 jours, prêchée spécialement pour Jacquette, mais à laquelle on exhortait Madame la marquise à assister, car elle était, aux yeux de Dieu, responsable de la souillure infligée à l'âme de sa fille par le dérèglement de ses hôtes. Pour donner à la chose plus de solennité et lui faire porter plus de fruits, l'abbé Pus était décidé à confier la parole à un certain moine notable de l'abbaye de Ligugé, en Poitou, qui, par hasard, se trouvait présentement à Saumur. Ninon accepta tout ce qui faisait plaisir au bon curé. On vit bientôt se présenter au château un noir bénédictin aux yeux de braise ardente. Son front était râpé, ses poignets crasseux, ses pieds crottés jusqu'au-delà des chevilles. À sa taille était noué un cuir gras, dont les bouts superflus bâillaient devant les jambes en lanières menaçantes. Un peu de voiles nombreux lui gazonnaient les oreilles, et sa figure osseuse et blême était sillonnée de rides profondes, imitant le dessin des fleuves et mots sur une carte de Hollande. Il n'avait point de dents quand il fermait la bouche. De molles membranes se pliaient, des narines au menton comme les flancs d'un soufflet. Quand il ouvrait la bouche, sa parole surprenante semblait articulée par quelqu'un stagnant au fond d'une caverne obscure, tel on imagine les vagissements d'outre-tombe. Aussi la moindre chose qu'il disait produisait-elle une grande épouvante. Il parla dans le petit oratoire, en présence de ses demoiselles, de la marquise et de monsieur le curé. Ni Pomme d'Api ni la Belzébuth n'avaient été admises. Jacquette en voulait beaucoup aux Capucins d'être cause qu'on la privait de sa compagnie ordinaire. Elle se vengeait en se moquant du vieil édenté et en pouffant de rire derrière l'écran de ses mains jointes, soit que le bonhomme Hahana du haut de sa caverne, soit qu'ayant mis le feu à tous les cœurs, il laissa reposer son soufflet. Dès la première instruction, Ninon fondit en larmes, se priva de dîner et eut la force d'interdire la nuit sa porte à Châteaubedeau. Car jusque-là, elle le recevait encore, n'ayant point été en peine d'opposer aux desseins amoureux du marquis de fin de non recevoir irréfutable. Foulque retournait donc dormir chaque soir, le nez incliné comme par le passé, sur sa table de nuit. Mais il ne pouvait mépriser le violent regain d'appétit qu'il avait pour sa femme, et il la persécutait tout le long du jour, essayant de l'amadouer par les agaceries de ses mains inhabiles, comme il faisait à la gouvernante du temps qu'elle vivait en liberté. Il tirait son nez en cas d'insuccès. Le terrible Capucin foudroya la débauche et les plaisirs illégitimes. Il ne faisait pas longtemps beaucoup de bruit, car sa voix, aussitôt éraillée, se réduisait à un souffle, mais qui semblait venir du ciel même par une petite fissure, et ce chuchotement divin dans les ténèbres de l'oratoire pour les âmes de bonne volonté était plus terrifiant que le tonnerre. Jacquette, pour qui l'on se donnait tant de mal, à vrai dire n'en profitait guère. Les béatitudes célestes et les tourments de l'enfer étaient sans prise sur son esprit positif et pur. Elle en faisait le récit fidèle à Pomme d'Api avant de s'endormir, mais de la même façon qu'elle lui répétait un conte de fées ou une légende de Marie Coquelière. Elle rangeait cela dans sa tête parmi les choses qu'on fait et les choses qu'on voit, sur une ligne bien droite et bien unie. Des unes comme des autres, elle se tirait ni motif, ni édification, ni matière à s'indigner. Elle avait une âme docile et courageuse qui acceptait le monde tel qu'il est. Mademoiselle de Quinconas était à l'épreuve de l'écandence sacrée, ayant entendu d'illustres prédicateurs à la cathédrale d'Angers, alors qu'elle habitait la petite ruelle. Mais il n'en était pas de même de la marquise, qui, hormis les remontrances de Madame de Maftefelon, n'avait jamais été atteinte par une parole émouvante. Elle se crut une très grande coupable, ayant mérité une éternité de supplice, tant par son inconduite particulière que pour avoir favorisé dans sa maison celle de ses hôtes. Ne voulait-elle point couvrir sa fine peau d'un cilice? N'y dogra-t-elle pas ce régime par le port de torchons rugueux qui déformait sa taille et la piquait comme un essaim d'abeille? Elle jeûna, passa des heures en prière, s'abîma gravement les genoux. Enfin, comme la retraite touchait à sa fin, elle se jeta aux pieds du moine et le pria de disposer de sa vie selon la volonté de Dieu, qu'il connaissait, cela va sans dire. Elle était toute préparée, affirmait-elle, s'il le fallait, à se retirer au désert. Le capucin lui dit que Dieu était touché d'un si beau repentir, mais qu'il se contentait à moins de frais. Il ne l'appelait point au désert, il ne lui demandait point de mortification insupportable, mais bien de vivre dignement et de remplir avec ponctualité ses devoirs d'épouse et ceux de mère. Nino respira et s'estima bien heureuse d'en être quitte à si bon compte. Une grande paix descendit dans son âme quand le moine la bénit, et elle souriait doucement et remerciait Dieu, car il lui semblait maintenant qu'elle ferait son salut très sûrement et avec une grande facilité. Nino était demeuré assez longtemps avec le capucin dans l'oratoire après la dernière instruction. Les auditeurs s'étaient retirés. M. l'abbé Puce, le dernier, tout rayonnant de l'issue inespérée de cette retraite, car par la purification de Nino, il estimait que les dernières traces du scandale étaient lavées. Le moine laissa la marquise agenouillée sur son prie-dieu, et il quitta l'oratoire, satisfait quant à lui de son œuvre. Pendant ce temps, le marquis cherchait sa femme, car il était demeuré, lui, étranger aux componctions des neuvaines, et il combattait sans cesse plus vivement la chair fine. Au surplus, il envoyait au diable moine, moinillon et moinerie. Il vint donc rôder autour de l'oratoire et y pénétra même dans le temps que Ninon s'y trouvait encore. Elle le reconnut malgré l'obscurité, comprit fort bien ce qu'il souhaitait d'elle, fit le signe de la croix et alla vers l'époux que le ciel lui avait départi. En lui ouvrant les bras, elle lui dit, tout imprégné encore des saintes paroles, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre goût, votre bon plaisir. » Fulk, qui ne s'attendait pas à cela, demeura stupide. Mais non pas tant qu'il accueillit galamment la proposition de sa femme et ne désira y répondre dans le plus bref délai. Il enveloppa Nino de ses grands bras et l'appressa de faire, selon son bon plaisir, ainsi qu'elle l'avait dit. Elle avait fermé les yeux et elle implorait seulement de son Seigneur qu'il ne prît pas dans ce lieu même ce qu'il voulait d'elle. Il la souleva à trois pieds du sol, quoiqu'elle fût rondelette et d'un bon poids, ayant franchi l'antichambre avec la décision rapide d'un courant d'air, il la jeta sur le premier lit qu'il entrevoyait au lueur du crépuscule. « Pas ici, pas ici !» hurlait l'infortunée marquise. « C'est la chambre de notre fille !» Ah ! C'est que Fulk, pour qui l'aubaine était rare, ne connaissait plus ni personne ni lieu. Peu s'en fallut que son élan ne fût si bien pris que tout obstacle dut être par lui traversé. Dieu merci, Fulk arrêta son élan assez tôt pour qu'aucun dommage irréparable n'en résultât. Trop tard, toutefois, pour que l'embrassement conjugal fût complètement inoffensif. Car Jacquette, qui était en train de réciter à pomme d'api le dernier sermon du Capucin, et qui avait baissé la voix en apercevant son papa et sa maman, déjà se levait et gagnait la porte à pas de loup, tenant pomme d'api cachée dans son tablier, afin que sa fille n'allât point s'aviser de lui demander encore des éclaircissements sur la scène qui se préparait là. Ce que voyant, la marquise, sa mère, se releva d'un bond, éloigna d'elle son mari, et ne put se retenir de prononcer un mot d'enfant mal élevé, mais qui pouvait se l'exprimer parfaitement, le sentiment d'impuissance où en est réduite la meilleure volonté du monde contre cette espèce de malignité diabolique qui agit les événements d'ici-bas. Qu'on lui pardonne le mot découragé, mais vif, qu'elle lança en retombant sur le lit, les deux jambes en l'air. Elle voulait dire « On a beau faire pour garantir l'innocence d'une jeune fille. Entassés, gouvernantes, murs de clôture, in-folio édifiant, voire curé et capucin, le démon subtil de l'amour est partout, s'infiltre en tout lieu. Et à s'acharner à détourner de lui nos enfants, on perd son temps et sa peine. Autant leur dire, jusqu'à 20 ans, mes petits, bouchez-vous les yeux à l'aide de vos deux poings. Il ne faut pas connaître la lumière. » Mais pensant plus court, Ninon dit tout crûment « Zut !» La chasse dans le parc, la marquise tire un coup de fusil dans le labyrinthe, discours de Dieu au chevalier de Tegard et triste chute de celui-ci du haut d'un pin, combat sanglant et affreux, quelques mots de philosophie, vanité de ses mots, la leçon d'amour dans un parc est finie. Oui, tout porte à croire qu'il existe un Gavroche divin dont la fonction, pour que je le garde d'apprécier, est de rire de nous lorsque nous pratiquons les vertus trop austères. Qu'on l'appelle diable ou bien l'amour, il est le même en tout pays, en toute langue. On dit ici, adoré là, il se plaît ici comme là. Audacieux des chantants, il se rit des hommes et des dieux, car il se sait leur maître. Monsieur de Chemillé, vieux libertin, vous dirait que dans le cas qui nous a retenus, il n'y a aucune intervention surhumaine, mais la manifestation de la toute-puissance de l'amour qui règne sur l'univers immense. À la façon dont la marquise a prononcé le mot significatif rappelé à la fin du dernier chapitre, et en jetant ses deux jambes en l'air, il était à prévoir que sa conversion ne serait pas de longue durée. Elle fut en effet tellement dépitée du maudit hasard qui faillit lui mettre le comble aux sandales de sa maison, dans le moment même où elle se disposait à accomplir le devoir imposé par le saint prédicateur, qu'elle se fit volontiers et sur le champ livrée aux plus coupables amours. Je crois qu'elle n'en trouva pas l'occasion, mais du moins elle courut se pelotonner contre son amant et se moqua avec lui des terreurs que lui avait causées la retraite. Châteaubedeau, pendant ses loisirs, s'était adonné au divertissement de la chasse. Il chassait au dehors, chassait au dedans. Forêts, landes, vignes, moissons, enclos du parc étaient par lui saccagés. Il tirait partout, tirait au hasard, ayant juré de dépeupler le domaine de tous les lapins et de tous les oiseaux, de toutes ces jolies bêtes qu'il est si agréable de voir passer effarouchées dans la campagne ou dans les bois. Ninon ne tarda pas à prendre goût à cet exercice. Ce que disait ou faisait Châteaubedeau était merveille. Elle avait même abdiqué la décence qui lui était naturelle et ne craignait pas qu'on la vît à toute heure, le jour et la nuit, avec ce gros fougueux. Elle tirait avec lui, tuait avec lui. C'était dans le château un vrai carnage. Les paons, les cygnes, des bassins, au moins la moitié des colombes, d'inoffensifs agneaux, des chèvres avec leurs biquets, le chien de berger, les daims qui couraient libres sous les charmilles, tout cela tomba en peu de temps sous leurs coups. Ces fous un jour nous tuèrent la belle Zébute. Il y avait dans le parc une compagnie de daims qui pullulaient depuis des années, car il n'était venu à personne l'idée de troubler leurs ébats. Châteaubedeau n'eut point de cesse que le dernier ne fût atteint. Après les avoir poursuivis, traqués, massacrés durant des semaines, il arriva, lors d'une dernière belle journée de l'automne, qu'on eut la certitude qu'il n'en restait plus qu'un. C'était vers la tombée du jour. Châteaubedeau et la marquise traversaient ce bois de chênes dont je vous ai parlé. Quelqu'un de vous s'en souvient peut-être. Lorsque je vous ai raconté la croisade matinale de Madame de Malzulfond et de la gouvernante. Ces dames s'y étaient assises un moment sur un banc avant de pénétrer dans le labyrinthe. Les deux amants, ayant beaucoup couru, s'assirent eux aussi sur ce banc et exprimèrent le regret de n'avoir pu exterminer la dernière bête qui, selon toute apparence, avait dû venir se réfugier dans ces parages. Le pauvre Fleury, bon à tout faire, et à qui, pour l'heure, étaient dévolues les fonctions de rabatteur, vint leur annoncer que les chiens s'étaient ralliés dans le labyrinthe et qu'il y avait là une jolie partie à faire avant la nuit. Châteaubedeau fut sur pied, Ninon comme lui. Les voilà dans le labyrinthe dont Ninon connaît les méandres. Elle s'arrête devant une de ces vues nommées « Ha-ha !» ménagées dans l'épaisseur des fourrés, et par l'une desquelles Mademoiselle de Quinconas avait perçu la Roustignasse de Cornebille. Ninon discerna nettement, malgré l'approche du soir, la statuette de marbre et la montra à Châteaubedeau. Il la vit tout comme elle. Mais il s'étonna que ses jours demeurassent si bien taillés en œil de bœuf dans des fourrés d'arbustes vivaces. Il fit remarquer en même temps le bon état des allées où cependant ne fréquentait personne. Ninon, légère et qui n'avait point pensé à ces détails, s'en émerveilla à son tour. Elle alla mettre l'œil à une autre ouverture et vit l'amour de marbre, propre et blanc comme au premier jour, à plus de 10 années pourtant, remontait à présent ce jour-là. Châteaubedeau n'était qu'un gamin lorsque Madame de Matefelon le tenait éloigné du bain des dames ainsi que le chevalier de Tegar. Pauvre chevalier, soupira Ninon. Elle se souvint de lui, parla de lui, et elle se remémora aussi Cornebille, qui avait vu là, nu, un soir d'automne, semblable à celui-ci. Les chiens tenaient l'animal. Ninon vit passer un objet rapide et lui prit fantaisie d'asseoir le canon de son fusil dans ce cylindre creusé à même le feuillage. Elle se disposa à tirer à première vue sur le daim bondissant à la gueule des chiens. Elle épaula donc son arme et attendit, un œil clos, l'autre brillant, ses belles lèvres recroquevillées par une cruelle ardeur. Tel était à ce moment son appétit de détruire, qu'à défaut du passage de l'innocent animal, elle avait résolu de massacrer la statuette. Mais pan, elle a tiré. Plus haut que les aboiements de la meute, un cri a retenti. Et Ninon, dans son cœur de femme, et son imbécile amant lui-même ont tressailli en reconnaissant, à quoi on ne saurait le dire, que l'âme d'un homme, par ce cri, s'échappait. Ils coururent vers le bassin par le dédale du labyrinthe. Faisons comme eux. On disait que Ninon en savait par cœur les méandres. Sa tête de linotte les a perdus sans doute. Mais nous voilà égarés. Profitons-en, si vous voulez bien, pour revenir là-bas, au bord de la Loire, près de la maison du passeur, dans la cabane de Cornedille, où nous avons laissé le chevalier de Tegar. Oh, que ces deux malheureux faisaient un triste ménage! Ils dormaient le jour par honte de se montrer dans leur dénuement, et aussi parce qu'ils passaient la nuit, comme je vous l'ai dit, tantôt à penser à Ninon sous ses fenêtres, tantôt à entretenir le labyrinthe, le bassin et la statuette, tantôt enfin à pêcher dans le fleuve au risque de se faire prendre par la marée chaussée, ou bien encore, hein, il faut bien l'avouer, à la confusion de notre chevalier amoureux, à voler la volaille et les œufs frais dans les fermes. Le reste du temps, Dieu de garde faisait redire à Cornobille la scène du bain de Ninon, et il éprouvait un sombre plaisir à voir étinceler les prunelles de son rival barbare. Cornobille excitait Dieu de garde à parler de la marquise, et il avait sans cesse l'envie de le tuer quand il était question des faveurs qu'elle lui avait témoignées. Mais il ne le faisait pas parce qu'il voulait entendre encore parler de Ninon le lendemain. Alors il inclinait l'entretien sur Château-Bedeau, et c'était celui-là de qui, dans l'ombre, il étranglait le fantôme. Il couchait sur la paille et sur de vieux chiffons que Marie Coquelière apportait parfois en cachette dans ses poches, car cette honnête femme n'eût osé voler une aune de drap à ses maîtres. Elle ne s'aventurait d'ailleurs plus guère à la cabane, parce qu'elle se mourait du regret d'avoir parlé, après avoir failli mourir de ne point parler. Et elle croyait que Cornobille l'avait puni en lui envoyant la maladie qui la consumait. Dieu de garde avait eu son habit feuille morte très endommagé par le contenu du vase reçu sous les fenêtres de Ninon. Il avait fallu plonger dans la rivière, le pauvre habit décoloré et malodorant, et sa belle soie étrécie, ridée, était pareille maintenant à la pelure d'une pomme de rainette qui a passé l'hiver sur la claie. Nous ne parlons pas des trous, ni des taches, ni de la guenille qui provient de porter un vêtement jour et nuit et d'en arracher les pans au petit matin à la gueule des chiens de berger. Il ne prévoyait pas de terme à sa détresse, car son amour, avec le temps, s'aggravait par la recherche quotidienne de Ninon, qui ne voyait jamais, et par l'épulation qu'il recevait du féroce amour de son compagnon. Nulle mésaventure ne le pouvait détourner du désir d'approcher Ninon. Lorsqu'on a commencé de souffrir par un grand amour, toute douleur nouvelle est plus avidement souhaitée qu'un rendez-vous par un amant heureux. Il était retourné sous les fenêtres. Il avait passé des nuits dans la volupté amère d'un bien-aimé voisinage. Il avait aussi pris goût à la besogne de jardinier, d'amour, au labyrinthe. Cornobille et lui, munis de vieux instruments qu'ils cachaient dans un endroit du parc connu d'eux, taillaient, émondaient, ratissaient. Ils entretenaient la margelle du bassin aussi propre qu'une assiette de faïence. Ils se jetaient à l'eau et époussetaient l'impudique amour. Quand vint la fin de l'automne, ils avaient fort à faire, parce que les pluies salissaient le cher objet, et parce que les feuilles humides s'y fixaient, enfin, parce que les nuits souvent étaient obscures, et il leur fallait travailler vite aux premières lueurs du jour, et en courant de grands dangers. Ils avaient été surpris, un matin, par la chasse endiablée du page et avaient dû demeurer cachés tout le jour dans le labyrinthe. Vers le soir, les coups de fusil retentirent de nouveau. Et cette fois, c'était la chasse de Ninon et de Château-Bedeau que nous suivions, nous autres, tout à l'heure, sous la futaie qui environne le bassin. Le fait était nouveau et surprenant. Cornobille pensait que la marquise, enfin, allait connaître ses soins depuis plus de 10 ans prodigués vainement. Or, pendant qu'il pensait cela, une balle le blessa à l'épaule. Cet homme, dont la vie était pire que la mort, après s'être lavé dans le bassin et poussé, pensait de son mieux, conseilla à Dieu de garde de monter sur un arbre élevé où l'on aurait moins de risques d'être atteint et plus de chance de voir Ninon. Le chevalier grimpa dans un haut pin et, pour la première fois depuis le jour fatal où il avait vu Ninon à demi-nu sur son lit, il la vit de très loin, c'est vrai, mais enfin il la vit. Et il fut tout à coup plus pâle que s'il avait reçu la blessure dont souffrait Cornebille, et il faillit tomber de son arbre. Cornebille, qui, lui, était sur un chêne plus touffu, et qui n'avait point vu ni non, lui demanda ce qu'il avait. Mais Dieu de garde ne le lui dit pas, afin de savourer davantage en lui-même sa douleur ou sa joie. Comme il ne soufflait mot, Cornebille cessa de lui parler, et le chevalier demeura sur la branche, bouleversé par une bien grande émotion. Son cœur faisait le bruit d'une écolière en retard qui court en sabots sur la route, et le vent dans le feuillage du pin jouait de la harpe, grave, enivrante musique. Le chevalier n'avait vu Ninon qu'un instant, mais il peut se faire qu'un être qui passe entre deux troncs d'arbres et qui est aperçu de loin soit cause que le sang s'arrête dans les veines d'un homme. Aussi, pour si peu, le chevalier sentit que la mort avait touché ses membres, et il crut qu'il se trouvait devant Dieu, et qu'il le reconnaissait très bien, tel qu'on enseigne qu'il est, c'est-à-dire entouré d'anges magnifiques, de prophètes barbus et de saints à la figure douce. Des personnes que l'on ne voyait pas touchaient de l'orgue avec beaucoup de talent, et on faisait au nouveau venu un excellent accueil dans cette belle assemblée. Il va sans dire qu'il avançait qu'avec une très grande discrétion, car il était encore timide, mais il entendait que l'Éternel en personne lui parlait du haut de son trône et lui disait « Monsieur le chevalier, soyez le bienvenu pour avoir porté dans votre cœur la pure flamme d'amour qui soulève les hommes au-dessus de la terre et qui vous a amené ici ainsi que tous les bienheureux que vous y voyez réunis. Je vous ai très bien entendu le matin, vous m'avez prié au bord de la Loire. Vous m'aimiez, m'avez-vous dit, madame la marquise de Chamarante. Il est curieux que les hommes en soient encore à se faire d'aussi plaisantes illusions. » dit-il en souriant. Et se tournant de gauche et de droite vers la nombreuse assistance, « Non, monsieur, votre âme brûlait du feu qui distingue les plus valeureux de ma noblesse, comme l'ordre du Saint-Esprit marque la poitrine des meilleurs serviteurs du roi. Ce feu vous élevait vers la beauté qui revêt mille formes. Vous avez été sensible à mon soleil, à ma nuit, aux eaux, aux bassins qui reflètent mon ciel et mes étoiles, au charme de mes provinces de Touraine et d'Anjou, qui est plus délicat que tout autre. Vous avez goûté les poètes qui ont le secret de rendre durables les fleurs de ma création. Vous avez cru à quelque chose de superbe qui flotterait au-dessus du monde. Et pour cette chose, qui à vos yeux d'enfant n'était encore que confuse, vous eussiez donné votre vie aussi gentiment que votre mouchoir. Vous eussiez pu être un martyr, un apôtre, un grand soldat. Le hasard vous a placé en présence d'une femme de fraîche figure et de corps engageant, et vous l'avez parée de toute la beauté qui était en vous. Et tenez, à vous parler franc, monsieur le chevalier, je ne suis pas fâché que vous ayez souffert les maux que le goût de la chair vous causa, en sorte que vous puissiez aujourd'hui faire la part de ce qu'est proprement l'amour tel que les hommes de notre monde le conçoivent, et de ce qu'est l'amour qui brille sous la perruque des héros, qui brille, monsieur, à ce point qu'on ne peut distinguer d'ici à l'œil nu. Penchez-vous plutôt, je vous prie. » À ces mots, le chevalier se pencha. Mais il n'eut le temps de rien voir, car il tomba du haut de son arbre dans le bassin, ce qui lui évita de se casser les reins, mais le tira du songe où il avait entendu Dieu le Père lui parler. Et comme il était fort jeune, il fut content de n'être pas mort malgré la belle réception qui semblait lui être destinée au paradis, car les paroles du Créateur ne lui plaisaient qu'à demi, et pour lui il demeurait fermement dans l'illusion d'aimer Ninon d'une flamme qui était héroïque ou pure ou tout ce qu'on voudra, mais d'une flamme qui le consumait et qui l'empêchait même de sentir qu'il était trempé de la tête aux pieds. Il sourit donc à la vie, quelle qu'elle fût, et envoya de la main un baiser à Ninon, qui savait n'être pas loin de là. Puis il profita de ce qu'il était près de la statuette pour l'enlacer et baiser la place où Ninon un jour avait posé ses lèvres. Ce fut dans ce mouvement, et comme il interceptait de son corps le marbre, que le coup tiré par Ninon l'atteignit en plein cœur, et il retomba à demi dans l'eau, à demi sur le socle de l'amour. Ninon, qui avait retrouvé le secret du chemin, accourait vers Château-Bedeau. Elle arriva au bassin, le malheur irrémédiablement accompli, et elle vit ce jeune homme, les pieds baignant dans l'eau et sa belle tête exsangue, renversée sur la dure marge de pierre. Elle ne se pâma point, car elle croyait n'avoir blessé qu'un malandrin. Et ce fut en s'inclinant à la margelle, dans une attitude inquiète et charmante, qui eût rappelé la vie le chevalier, s'il l'eût pu voir, qu'elle reconnut la victime de sa chasse malheureuse. Et dans le temps qu'elle remettait le visage de Dieu regard, presque pareil, quoique amaigri et flétri, à celui qu'il avait eu en ce lieu même, le jour où elle avait tant souhaité qu'il la baisât sur la bouche, le passé se représenta à sa courte mémoire de femme, et elle eut immédiatement une douleur aiguë et sincère qui lui arracha une plainte déchirante. Mais sans perdre la tête, elle commanda à Château-Bedeau de se jeter à l'eau et de secourir son ancien ami, puis elle cria « Au secours, au secours !» et s'enfuit, afin de guider ses gens lorsqu'ils approcheraient du labyrinthe. Château-Bedeau jeta son habit, en réfléchissant que ce qui venait de se passer là était déplaisant. Il éprouva l'eau du gras de l'orteil et s'élança. Il fallait atteindre le milieu du bassin, lorsqu'une masse d'os, lourde comme une bille de chêne vert, lui tomba du haut d'un arbre entre les deux épaules et le fit plonger jusqu'au fond du bassin. Il remonta à la surface en même temps que ce bolide et vit en s'ébrouant un visage horrible qui s'ébrouait de même et si près qu'ils se vomissaient à la face l'un l'autre. Château-Bedeau reconnut le sorcier Cornebille et le soupçonna aussitôt de lui vouloir pas de bien. Dans tous les cas, cet homme, en lui tombant dessus, lui avait fait grand mal. Il ne s'agira donc plus qu'à s'éloigner le plus tôt possible. Mais le sorcier, de ses longs bras en membres maigres, nageait comme une grenouille, et il fut hors de l'eau quand Château-Bedeau mettait le pied sur l'échelle marine. Cornebille l'empoigna par la chevelure, et telle était la force haineuse de ce sauvage qu'il souleva le gros page au bout de son bras. Ensuite, il le plongea à l'eau, et agenouillé au bord du bassin, il le secouait et le cognait contre la muraille comme on voit les laveuses à grands coups de battoir aplanir leur linge baveux. Château-Bedeau, lourd et râblé, mais souple, redressa tout son corps avec l'agilité d'une anguille, et en serrant entre ses jarrets son hideux rival, il lui fit lâcher prise et lui trancha d'un seul coup de dent deux doigts. Ensuite, il bondit dans l'eau comme une otarie et en sortit sans échelle d'un saut d'animal traqué. Mais aussitôt, Cornebille se présenta à lui, dégouttant d'eau et de sang, secouant sa main rompue comme un immonde pinceau. Ils se ruèrent de nouveau l'un sur l'autre. Château-Bedeau était desservi par l'horreur qu'aspirait ce monstre. Cornebille, par la douleur de son épaule trouée, de ses doigts arrachés par le sang perdu. Château-Bedeau défendait sa vie, mais Cornebille assouvissait sa haine, ce qui le rendait fort. Ils tombèrent sur le sable qui saupoudra leur dos humide d'une poussière blonde. Un dernier rayon, filtré par les rameaux d'automne, colorait de beaux tons mordorés cette boule humaine qui roulait, poussée par quelques pieds invisibles, autour du bassin dominé par l'amour indifférent et par le chevalier mort. Enfin on arriva. Les domestiques, les hôtes du château, M. de Chemillé, le marquis et jusqu'à Jaquette et sa gouvernante, tous essoufflés. Ninon avec eux. Elle pensait trouver Dieudegard étendu sur la mousse et Château-Bedeau à genoux à côté de lui, lavant amicalement sa blessure. Elle fut très étonnée et mécontente de ce qu'elle découvrait. Le pauvre chevalier, toujours étendu sur les degrés de la statuette, la boule épouvantable roulant avec un sinistre bruit. Les hommes firent un pas en avant, les premiers. Ayant reconnu la matière dont était composé ce spectacle, ils s'employèrent à en séparer les éléments. Château-Bedeau demandait grâce, mais Cornbille le tenait serré dans un garrot et disait distinctement qu'il voulait lui faire exprimer son dernier jus comme un marc de raisin. Tout effort pour arracher les membres du page aux tentacules de cette pieuvre était inutile. Ninon parvint à se faire jour à travers le groupe d'hommes qui voulaient lui épargner tant d'horreur. Elle approcha, contint de la main son cœur. Elle essaya plusieurs fois de parler avant d'y réussir, tant elle était émue. Enfin, elle prononça, sur un ton suppliant, « Cornbille !» Comme un chien appesanti par le sommeil se trouve soudain sur les pattes à la voix de son maître, le monstre, en entendant son nom tomber de cette bouche, détourna les yeux de sa proie et laissa un instant s'égarer dans le vide sa prunelle rougeoyante. Oh, je ne sais pas ce qu'il voyait, car la passion sauvage de cet homme me dépasse. Cependant, il ne le lâchait point, les membres de Château-Bedeau, qui lui, oh, si peu digne d'intérêt qu'il fût, faisait pitié, oh, je vous prie de le croire. Ninon s'approcha davantage encore, et elle essaya de commander impérieusement du doigt à Cornbille en répétant son nom. Cornbille releva la prunelle, et il vit le doigt, et au-dessus, penché sur lui, le visage de Ninon. Pour le visage, il n'osa pas le regarder, mais il regardait le doigt. Alors il saisit ce doigt de sa demi-main sanglante et lâcha tout pour le porter à sa bouche. Ninon défaillait d'épouvante. On voulait à coups de pied faire lâcher prise à la brute. Mais Ninon eut l'âme à endurer ce martyre et elle ordonna d'emporter Château-Bedeau pendant que le monstre léchait le doigt. Il léchait le doigt de Ninon. Ce seul doigt, en rampant, il faisait entendre un sourd gémissement. Il se tordait dans la boue ensanglantée du sol en léchant ce doigt, ce seul doigt. Car il n'osa pas aller plus haut. Puis de sa bouche abominable, on crut entendre les grondements d'un orage apaisé. Enfin, le monstre retomba tout d'un bloc. Et Ninon alla se laver dans le bassin. Alors les uns donnèrent des soins à Château-Bedeau, qui en avait grand besoin, les autres au malheureux chevalier, qui était maintenant au-dessus de toutes les infortunes de ce monde. On le déshabilla pour examiner sa blessure. La petite balle l'avait touché au cœur, ainsi que je vous l'ai dit. Quand on eut passé sur sa poitrine un linge humide, on vit le nom de Ninon écrit en hautes lettres qu'un point malhabile avait tracé, de sorte que Ninon apprit en un même moment la grande passion de ce jeune homme et sa mort. Toutes les autres personnes qui se trouvaient là, gens qui ne savaient rien de ce qui se passe au fond des âmes, furent fort étonnés. Marie Coquelière ne put se retenir de répéter ce qu'elle avait déjà dit sur la vie mystérieuse des deux êtres qui gisaient, sur leur visite nocturne dans le parc, sur l'entretien miraculeux du labyrinthe et de l'amour. Et cette fois-ci, il fallut le croire. Mais ces aventures parurent bien extraordinaires. La nuit était venue. On ne distinguait plus qu'avec peine les objets, sauf la statuette de l'amour dont le marbre blanc retenait la lumière et qui s'adressait, intacte, impassible et impudique, au milieu des événements. Monsieur le baron de Chemillé crut le moment venu de prendre Jacquette par la main et de lui parler en termes clairs de tout ce qu'elle avait vu, non seulement cette journée, mais depuis le temps qu'on s'efforçait de lui tout dissimuler. Il lui dit qu'il ne fallait pas qu'elle recueillît de tout cela matière à se détourner de l'amour, qui est un sentiment noble et beau, quand il vient à son heure et dans des conditions telles que rien ne le fasse dévier de sa route droite. Il lui dit qu'elle allait être grande bientôt, et qu'on pouvait lui parler comme à une femme. Et il se donna en effet la peine de lui éclaircir diverses particularités du jeu de l'amour, afin que rien, pour ainsi dire, ne lui en demeurât inconnu ou n'excitât sa jeune imagination par l'attrait du mystère. Avec des termes qu'il s'efforça de trouver mesurés, il toucha devant sa filleule à ce grand sujet qui bat comme un cœur au centre de l'univers et l'alimente, et que seule la méchanceté des hommes et des cœurs parvient à rabaisser et à avilir. Enfin, il s'éleva très haut là-dessus et dit des choses superbes. En effet, c'était un philosophe, et il s'était construit, comme ses pareils, sur toute chose des systèmes inégaux et séduisants. Jacquette l'écoutait, car elle était toujours attentive à ce qu'on lui disait. Sachez seulement que rien de ce qu'elle avait vu, rien de ce qui lui fut caché, rien de ce qui lui fut éclairci, ne modifia la contenance que Jacquette devait prendre vis-à-vis de l'amour, lorsque celui-ci se présenta, car elle épousa vers l'âge de 16 ans un beau jeune homme qu'elle aima tendrement dès qu'il lui demandait sa main, quoiqu'elle ne l'eût vu que bien peu auparavant. Et aussitôt qu'elle sentit qu'elle l'aimait, elle fut si pudique que le moindre mot malséant, qui lui était bien égal d'entendre jusque-là, lui devint désagréable. Elle rougissait et croyait très volontiers que son mari était un ange. Elle oublia tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait appris malgré elle et tout ce que son parrain, le philosophe, lui avait enseigné. Il n'y eut jamais de femme plus vertueuse, à la fois et plus agréable à son mari, car elle était venue au monde avec une âme simple, dans une chair bien portante. Les exemples du monde et la philosophie sont peu de choses au prix d'une gouttelette de bon sang.